19h-20h. Et les informer avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Merci à vous, merci de, évidemment, de votre fidélité. Toujours autant, 19h, pile, poil. On était juste en train de résoudre quelques petits soucis techniques, voyez-vous. Hein, c'est le direct, c'est comme ça. Eh bien, c'est parti. Parti pendant une heure de marathon, paraît-il. 20h, ça là, une heure ensemble. Au menu, donc, dans les informés, ce que je vous propose, c'est tout de suite, évidemment, cette situation de crise concernant l'Ukraine. Poutine, sur le point d'annoncer un certain nombre de choses, mais surtout, est-ce que ce sommet entre Biden et Poutine se tiendra, notamment? Est-ce que, évidemment, les différents échanges entre Emmanuel Macron et puis Poutine ont été fructueux? On en parlera. Et puis, finalement, la guerre n'est-elle pas déclarée, y compris psychologique? Il y a la guerre des images, il y a la guerre psychologique, et puis il y a la guerre tout court. On en parlera pour mieux comprendre, évidemment, ce qui nous attend. Ensuite, nous nous intéresserons aussi à Emmanuel Macron, qui dit tout simplement que la priorité est à l'international et que, compte tenu de son annonce, eh bien, elle va être certainement repoussée. Est-ce une bonne chose? À qui profite cela? Et puis, cette présidentielle 2022 est-elle en train de prendre une tournure particulière, une note particulière? Autre sujet qui a retenu notre attention aussi, c'est les quartiers populaires. Là, on va prendre le temps d'en parler. Les quartiers populaires vont être un enjeu au cœur de cette campagne, au cœur de la campagne. Alors, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, les quartiers ont décidé certainement de faire entendre leur voix, c'est la question qu'on pose, notamment face à ce déferlement de haine. Mais surtout, vous savez, voyez-vous, eh bien, c'est les quartiers populaires qui sont embarqués tout simplement par les équipes de Mélenchon qui sont en pleine campagne déjà dans les quartiers populaires. Et je dois dire, je me suis un peu renseigné, c'est un véritable, comment dirais-je, succès certainement. Eh bien, nous allons nous intéresser évidemment à ce phénomène Mélenchon dans les quartiers populaires. Et puis, tout de suite derrière Mélenchon, selon un sondage qu'on a reçu, eh bien, il y a Emmanuel Macron qui garde donc cet ancrage dans les quartiers populaires. Voilà, c'est le menu qui vous attend. 01 53 48 3000, c'est votre numéro. Partout en France, vous nous appelez et puis vous intervenez sur ces trois sujets. Venez ici même commenter l'actualité avec nous. Le 19h30, c'est avec Maître Philippe-Henri Honegger et la signature du lundi avec son quad neuf. Et puis les débatteurs, Rudy Cassi, Amine Sarr, quasi absolument. Ouais, il a dégainé le micro. Hein. Il a dégainé le micro, lui, il est trop fort. Lucky Luke. Ça va, Lucky Luke?
Ah, c'est gentil de m'appeler. Ouais, Lucky Luke.
Il arrive, je suis en plein sommaire, lui, il t'interrompt. C'est pas, il cherche la. C'est pas, tu sais, la correction, j'attends la fin. Là, vous avez fait une faute. Non, le mec, c'est à l'arrache, tu sais. Il intervient. Tiens, je te coupe ton sommaire. Je casse ton. Je casse ton sommaire, je m'en fous. Quelle correction, mon cher!
À la dictée des élus hier.
Ça va, si vous voulez prendre ma place?
Non, je respecte trop.
Il est trop fort, Rudy. J'ai même pas fini mon sommaire. Il est déjà en train de parler de la dictée. Il est déjà en train de parler de. Non, mais ils sont. Quelle éducation, c'est politique. Vous voyez, je vous comprends, les amis auditeurs. Voilà, je vous comprends. Voilà, ils sont. Comment dirais-je? Ils sont indisciplinés, ces hommes politiques. Vous avez raison, je comprends votre méfiance. Oh. Et Ahmed Lawedge du PRG qui sont avec nous ici même. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Ça va, Rudy? On vous a pas dérangé? Ça va?
Non, tout va bien.
Tout va bien?
Ça va.
Bon, c'est un élu. Rudy Cassi, vous avez fait la dictée, ça a été un succès, me disait Amine Sarr hier.
Ouais.
Aujourd'hui, pardon.
Ouais, tout à fait, ça a été un franc succès. Je crois que à travers la France et même à travers le monde, on a eu à peu près 400, ouais, parce qu'en fait, on a eu des expatriés, ouais. Notamment des conseillers français de l'étranger, donc des élus dans des circonscriptions internationales. Et voilà, c'était une belle réussite.
On a eu la présence
d'Elisabeth Moreno, qui est venue qui est venu et qui effectivement a lu le texte à la mairie du 19e arrondissement.
Enfin, donc,
je pense qu'il y a une belle fête républicaine.
Rappelons que le fondateur, c'est Rachid Santaki.
Il était partenaire, en effet, et Rudy a le triomphe modeste parce qu'il était l'un des artisans de cette réussite.
Ah bah bravo.
Si ce n'est
bravo,
le plus engagé. et en tant que délégué général de l'association. Et donc, je tenais à lui dire félicitations et merci pour ton engagement à la
Merci et merci pour le tien.
Aminsa, bonjour. Élu également. Comment ça va?
Bonsoir Adil Farkan. Bah, écoutez, très bien. Et vous?
Tout va bien.
Et bonsoir
merci
aux auditeurs, infiniment. Surtout.
À vos côtés, surtout. À vos côtés, Ahmed Lawedge du PRG, du 93. Comment ça va?
Bonsoir Adil Farkan. Très bien.
Prenez bien votre micro.
Très, très
vous.
Bien. Je vais très bien.
Ça va? Taubira, comment elle se porte?
Écoutez, ça va être compliqué.
Ça va être compliqué. Hein.
Ça va être compliqué.
Faut dire la vérité. Hein.
Ah non, non, mais je pense
elle
qu'il
a,
faut
elle a, elle, a, elle, a baissé, hein, elle a baissé dans les sondages. Hein.
Oui, et puis je pense qu'à un moment donné, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris dans le sens où, à un moment donné...
Qu'est-ce qui s'est passé?
Le rassemblement, je crois que la gauche, elle n'en veut pas. Elle voulait le rassemblement. Malheureusement, tout le monde reste dans son bateau et le bateau va couler. Malheureusement pour la gauche et les écologistes, aujourd'hui on le voit.
La gauche. Jean-Luc Mélenchon se sort bien. Hein.
Non mais attendez, Jean-Luc Mélenchon pour l'instant il n'est pas au deuxième tour. Moi ce que je dis aujourd'hui.
Sauf que Taubira a perdu terrain et Mélenchon gagne du terrain.
D'accord, mais moi l'objectif c'est que au premier tour on élimine. D'accord, donc à partir de là, aujourd'hui, aucun des candidats de la gauche et des écologistes pour l'instant est au deuxième tour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qui? Zemmour. Avec 147 heures d'audimat et personne ne dit rien. Valérie Pécresse et Marine Le Pen. Elle est où la gauche? Elle est où? Il est où le Parti socialiste?
C'est pas faux.
Voilà. En plus, c'est pas sûr qu'ils aient leur signature. Et c'est vrai que le PRG commence à se poser des questions. Il s'est posé des questions d'ailleurs pour pouvoir se dire qu'on arrêtait parce que ça sert à rien de remettre une pièce dans le jukebox pour savoir qu'à un moment donné où c'est qu'on va. Et puis, je vais plus loin.
Ouais.
Dans le fait qu'aujourd'hui la primaire populaire est en train aussi de se retirer. Quand on voit que les anciens socialistes qui étaient vraiment les barons de l'époque reviennent en essayant d'essayer d'avoir autour d'elle la mainmise, moi ça me déplaît un petit peu. Donc voilà, donc aujourd'hui je crois qu'on a une situation qui va nous amener à voir autrement cette élection présidentielle.
Eh bien on aura l'occasion évidemment de commenter ici même. On va parler de la crise en Ukraine, la crise ukrainienne. Hein. Vous l'avez tous suivi d'ailleurs, notamment avec les différents échanges entre Emmanuel Macron, avec Vladimir Poutine, avec ce sommet aussi hein, qui est en question. Ce sommet se tiendra ou se tiendra pas. Poutine qui va s'exprimer dans la soirée, c'est officiel aujourd'hui. Donc on va l'entendre tout à l'heure évidemment sur quelle décision prendra-t-il sur les questions de l'indépendance des séparatistes donc pro-russes en Ukraine. Messieurs, est-ce que finalement on est déjà... Alors on parle de processus de paix qui n'a finalement aucune perspective. Mais est-ce que disons-le, cette crise ukrainienne, ne sommes-nous pas déjà en pleine guerre, y compris la guerre des images, des médias, psychologiques, redit quasi.
Bah écoutez, c'est vraiment une situation très compliquée, je dirais même inextricable, dans la mesure où il y a plusieurs enjeux qui s'entremêlent quand même au milieu de ce conflit. Hein. Il s'agit quand même de zones territoriales faisant partie de l'ex-bloc de l'URSS, avec un attachement historique, je dirais même anthropologique fort avec la Russie, parce que l'Ukraine, c'est quand même le berceau, on va dire, de la civilisation russe. Et de ce point de vue, quand on voit quelqu'un comme Poutine, qui est là depuis 20 ans au pouvoir, qui se veut être le nouveau tsar de la Russie, c'est difficile pour lui, en fait, d'envisager. C'est-à-dire, en fait, il veut finir. C'est pas encore sûr qu'il finisse, hein, mais en tout cas, il veut donner en fait une nouvelle note à son règne entre guillemets, en faisant en sorte que la Russie redevienne en fait ce grand empire.
Alors dans la géopolitique, certains disent d'ailleurs que c'est aussi faire payer aussi quand Barack Obama était président de la République.
Mais non, mais en fait,
Joe Biden un certain nombre de choses que il s'est senti humilié par Barack Obama à l'époque.
Mais oui, mais en fait, le problème c'est la question de l'OTAN, c'est qu'en fait les plans en fait de Poutine seraient contrecarrés si jamais l'Ukraine rentrait dans l'OTAN. Or, je rappelle que il y a un sondage en Ukraine qui était sorti qui montrait qu'en fait à 58% des Ukrainiens voulaient entrer dans l'OTAN. Les choses sont assez complexes. De ce point de vue, ça ne peut qu'en fait renforcer des réalités de séparatisme dans le pays, puisque il y a une partie qui est influencée effectivement par la culture russe, par l'influence géopolitique russe, qui elle veut effectivement se séparer de l'État ukrainien. Mais lorsque vous voyez ce qui s'est passé avec la Crimée, les choses sont pas aussi simples avec Poutine,
non.
Parce qu'il a pris la Crimée par la force. En réalité, c'est une forme de, c'est une volonté expansionniste en fait de prendre l'Ukraine. Et donc en prenant la Crimée, ça a renforcé en fait un sentiment national en Ukraine. Donc tous les Ukrainiens ne sont pas forcément pour aller dans le camp de Poutine et donc se réannexer à la Russie. Donc ça devient extrêmement difficile pour Poutine. Par contre, effectivement, il n'en démord pas. Les injonctions sont fortes. Il faut immédiatement qu'on signe les accords, etc. Des accords, d'ailleurs, en plus, qui n'ont pas pris le temps de la négociation. Il est arrivé avec des papiers, là, au mois de janvier, fin début février, signer ces accords. Donc, il met une pression extraordinaire. Là encore, il y a des bombardements dans la zone de l'Est, dans la zone de Donbass qui a eu lieu, soi-disant entre les séparatistes et l'armée ukrainienne, mais en réalité on sait que derrière c'est Poutine qui pousse. Et de, ce week-end est prévu des tests des exercices en fait de bombardement soi-disant
avec les Biélorusses. C'est pas très clair tout ça.
Évidemment c'est pas clair, mais pour sortir de cette situation, il faut vraiment beaucoup, c'est pour ça le lien avec Emmanuel Macron qui peut pas se déclarer tout de suite, c'est que quelque part, il y a un jeu politique derrière, mais ça se comprend.
Ça se comprend.
Il faut gérer cette crise.
Aminsa, alors justement, quelle est votre vision, votre décryptage à vous, votre analyse concernant cette situation qui est en train, évidemment...
Avant d'en arriver à la question de l'OTAN, moi, ce que je voulais dire, c'est que cette crise, elle est quand même révélatrice de notre... en quelque sorte, de notre incapacité à agir, de notre... On s'est un peu reposé, finalement, sur nos lauriers. L'Europe, au sortir de la guerre, s'est construite sur une promesse de paix. Voilà. Mmh. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été un succès. Ouais. Ça fait,
le plus grand espace de paix au
ça
monde.
Fait plus de 70 ans qu'il n'y a pas de conflit sur ce territoire. Et cette crise-là vient nous rappeler à quel point cette promesse de paix, il faut l'entretenir. Alors comment on l'entretient ? On l'entretient par le dialogue, par la diplomatie. Moi, c'est cette voie-là que je veux favoriser. Et puis...
Sauf que ça prend pas.
Je suis d'accord. Alors, la réalité, c'est que moi, ce que je une chose dont je suis...
Certains pensent que d'ailleurs, Poutine s'en fout complètement, d'ailleurs, de cette diplomatie. Hein.
C'est un rapport
de force. En tout cas, il vient d'accepter une entrevue, une rencontre avec Biden. On verra si ça aura lieu ou pas.
Avec
en
Biden,
tout cas,
ils veulent aussi, Poutine est aussi ouvert à rencontrer les séparatistes aussi.
Les séparatistes.
Mais je crois que tant que le dialogue et la discussion demeurent dans cette crise, moi je suis pour et je suis surtout heureux de voir que la France prend place dans cette crise en favorisant le dialogue et l'échange entre les différents protagonistes. Mais évidemment, va se poser la question dans les semaines, dans les mois à venir, notamment sur le bureau du prochain président ou présidente de la République, la question de l'appartenance à l'OTAN. Je crois qu'il faut, c'est pas une question tabou, il faut qu'on puisse en discuter également.
Mais ça va être compliqué quand même pour tout.
Je vous redonne la parole. On n'a pas entendu Ahmed Lawedj. On revient évidemment juste qu'on distribue la parole. Ahmed Lawedj.
Oui. Enfin, moi, je pense que le maître des horloges, c'est Poutine dans cette affaire.
Ah bah complètement.
Il souffle le chaud et le froid. Il sait que Biden est très faible, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, mais aussi avec la Chine.
Il profite de ça, vous avez raison. Il
y a aussi un problème, c'est que bon, il veut surtout pas que l'OTAN vienne le surveiller. Il a dit encore il y a une heure qu'il allait reconnaître l'indépendance des séparatistes. Donc chaque jour, il essaye de mettre la pression à l'Europe et au monde. Et je pense que, et c'est vrai que la crise du Covid n'a pas amélioré les choses. On sait que c'est une personne qui aujourd'hui ne décide pas avec un comité exécutif de son pays, mais avec deux, trois personnes. Et c'est là où c'est très dangereux. Je crains.
Donc la guerre est inévitable.
Je crains qu'il fera tout. Il va tout faire, même si, comme je dis, il souffle le chaud et le froid. Un jour, il dit à Macron, je suis pour venir sur en France pour pouvoir discuter et essayer de sortir par l'eau. Et d'autre côté, il dit, moi, l'OTAN, si vous intégrez l'OTAN, c'est fini. Ceci, cela. Donc voilà. Donc je sais pas où c'est que ça va finir tout ça, mais c'est pas très bon. Mais
c'est pas très bon.
Moi, je pense que rapidement, ça se joue. Beaucoup, en fait, c'est comme un rapport de force. entre deux personnes en fait qui s'envoient des signaux un peu comme des animaux qui s'affrontent. Sauf que là, le problème, c'est que Poutine, il se bat contre plusieurs animaux. On parle de Biden, certes affaibli, mais ça reste quand même les États-Unis, la puissance américaine. On parle de l'Europe, on parle d'Emmanuel Macron. Il y a aussi l'Allemagne qui joue un peu les entremetteurs au milieu de tout ça. Donc en fait, Poutine, il est comme en fait dans un match de basket et il est seul face à une équipe, face à cinq personnes. La réalité, c'est qui va peser assez fort en fait sur le plan géopolitique, qui va avoir en fait la main la plus lourde pour pouvoir perdre en fait du terrain, c'est-à-dire en fait si jamais c'est l'Europe qui pèse plus, enfin en tout cas l'Europe et la coalition, on va dire de l'OTAN, et ben Poutine en fait va reculer. Mais dans la mesure où Poutine est dans cet objectif-là, c'est-à-dire en fait parce que comme on a déjà la Russie a déjà perdu des pays de l'ex-bloc URSS qui sont déjà rentrés dans l'OTAN, c'est le cas déjà de plusieurs pays. Il n'a pas envie de perdre en fait à nouveau l'Ukraine parce que si jamais en fait vous voyez bien qu'il fait un peu la pluie et le beau temps en Turquie entre guillemets, qu'il fait la pluie et le beau temps dans d'autres pays, l'Azerbaïdjan, dans ces coins-là, etc.
Avec ses alliés chinois,
en fait, de perdre un pays en fait avec lequel il y a autant de proximité sur le plan culturel.
Et une histoire aussi.
Je reviens aussi sur le positionnement de la France.
Oui.
Macron aujourd'hui, c'est vrai qu'il a pris bâton de pèlerin pour essayer de trouver une solution diplomatique. Mais moi, j'entends les candidats aux élections présidentielles comme Valérie Pécresse ou d'autres qu'on n'aurait rien à faire. Ils se disent. Non, mais ils n'en ont rien à faire. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, écoutez, mais laissez l'Ukraine, que la Russie l'envahisse. Hein. Je pense que là aussi, c'est important que la France soit soutenue par l'ensemble des candidats
envahir,
aujourd'hui qui sont dans une élection présidentielle.
C'est l'Europe qui se fait envahir si l'Ukraine se fait envahir. Donc, quel est le poids de l'Europe au milieu de tout ça? Qu'est-ce que vaut l'Europe? Voilà, est-ce que la Russie ne peut pas être intégrée à l'Europe?
C'est la question, mais c'est tout l'enjeu.
Velléités, en fait,
c'est tout l'enjeu.
La question centrale, quand même, dans cette affaire, c'est la question de l'OTAN. On pourra toujours discuter, etc. Mais qu'est-ce que c'est l'OTAN? L'OTAN, le commandement intégré de l'OTAN, c'est ce qui a été.
C'est la force armée occidentale.
Voilà, c'est ce qui a été créé au sortir de la guerre froide, notamment parce qu'il y avait cette menace du bloc de l'Est. Et. Il faut se dire quand même franchement, on n'est plus exactement dans cette configuration-là. Et donc, je crois qu'il faut imaginer autre chose au lieu de pousser les Russes dans les bras des Chinois.
Mais Poutine, au lieu de faire corps avec l'Occident, il préfère ressusciter en fait cette vieille résurgence.
Mais moi, je ne partage pas du tout la position et la vision de Vladimir Poutine. Je dis juste que...
Qu'est-ce qu'il faut en Afrique ?
On a une situation qui n'est plus en adéquation avec le contexte actuel.
Mais le problème, c'est que il faut
qu'on évolue vers autre chose.
Voilà, le problème, c'est que si jamais Vladimir Poutine en fait perd cette guerre, quelque part, c'est aussi toute l'influence russe à travers le monde, comme on disait.
Non, mais l'Afrique, vous allez au Mali là.
Le Mali, la Centrafrique, etc.
Et puis il y a une fin
de quelque part.
Quelque part, juste d'une phrase, c'est le fait d'accepter aussi ce que ils appellent l'impérialisme occidental.
Première pub, et on se retrouve avec ce second sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Justement, une transition qui nous permet de parler d'Emmanuel Macron avec cette priorité à l'international, selon lui, mais surtout pas d'annonce en ce moment. A-t-il raison de repousser sa candidature ou pas? Surtout qu'on le sait qu'il y a les dépôts dans pas longtemps. Eh bien, on en parle dans une poignée de minutes, juste après la pub. Vous aussi, au 0153483000, vous pouvez venir nous échanger avec nous et commenter avec nous. On vous attend. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Informé 19h25 avant de retrouver le Quoi de Neuf à 19h30 avec Amine Saha qui est un élu de la Courneuve, avec celui qui coordonne le PRG auprès de Taubira dans le 93 sur le département du 93, Ahmed Lawedj, mais également un autre élu, Rudy Kazi.
Les informés, le face-à-face.
Un petit tour de table avant de passer au second sujet. Guerre est-elle déclarée ou pas du tout, y compris guerre des médias, guerre des images, guerre de tout cela, guerre des esprits, guerre...
Celle-là, on est en plein dedans.
On est en plein dedans.
Entre les déclarations qui arrivent de toutes parts, les images du mouvement des militaires...
Des chars aussi qu'on voit aussi.
Exactement, mais moi je suis un éternel optimiste et j'ose espérer que le dialogue et la discussion permettront de sortir par le haut de cette crise et que la France... sera à la manœuvre sur cette question.
Ahmed Lawedj.
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, on attend. On attend
la déclaration de ce soir.
La déclaration de ce soir. On attend le fait que, encore une fois, que Poutine joue un peu avec les nerfs du monde. Et je ne sais pas, encore une fois, où ça va atterrir tout ça.
Effectivement, on verra. On attend l'allocution de ce soir avec de Vladimir Poutine. Rudy Kazi, alors, qu'est-ce que vous dites sur cette guerre ? Est-elle déclarée finalement ?
Dans la mesure où ils ont déjà réussi, où Poutine avait déjà réussi à annexer l'Ukraine, la Crimée, pardon. Pourquoi est-ce qu'il s'arrêterait en chemin ? Moi, je pense que les clés sont entre les mains d'Emmanuel Macron et de entre guillemets donc les partenaires internationaux, les États-Unis, etc. Et que là, c'est à Emmanuel Macron de se déterminer comme le chef européen dont il a le pouvoir encore pour 3-4 mois. Voilà.
Qu'est-ce qu'il doit faire ? Maintenir la diplomatie.
Il doit faire de la diplomatie, mais il doit aussi montrer les muscles. C'est comme ça.
Ouais, on montre les muscles,
on dit, bon, on ne veut pas les utiliser. Mmh. Et moi, je trouve que pour le moment, les muscles ne sont pas sortis.
Est-ce qu'il devrait montrer les muscles, justement, Emmanuel Macron ?
Aujourd'hui, il va être quand même dans une élection présidentielle. Et dans 2 mois, je pense que là, ça va être compliqué pour un gars comme Poutine qui sait, encore une fois, être le maître des horloges, de se dire, mais attendez, à un moment donné, il peut me parler matin, midi, soir. Moi, j'ai un pays, je vais pas l'écouter, même si des fois, là, je crois qu'il joue avec ça. Il joue avec les nerfs des présidents, que ce soit l'Allemagne. Et d'ailleurs, l'Allemagne, les États-Unis, la France ont demandé aux gens qui...
Rudy Kazi, finalement, est-ce qu'Emmanuel Macron ne devrait pas s'imposer davantage ?
Je crois qu'il le fait, il le fait.
Ouais, mais là, on est dans la diplomatie, est-ce qu'il ne doit pas taper du poing ?
La culture française, c'est de taper du poing, mais toujours de prioriser le dialogue.
Oui.
Je crois qu'il le fait, il a raison de le faire.
Ils sont au niveau, au dialogue.
Il ne faut pas griller les étapes. Il y a cette étape de la discussion du dialogue. Il faut absolument qu'elle soit priorisée.
Ceci dit, il a été bon dans la démarche. Je pense qu'il a pris beaucoup de points pour être considéré en France comme un homme d'État par rapport à la situation.
Il n'a plus beaucoup de temps parce qu'il y a la séquence de sa déclaration.
Eh bien, justement, parlons-en. Allez, prenez la parole sur la séquence. Est-ce qu'il a raison de prioriser justement ces enjeux de géopolitique concernant donc la Russie, l'Ukraine, etc. Et puis repousser en permanence l'annonce qui à chaque fois évidemment est attendue parce que aujourd'hui et la France et les électeurs et évidemment ceux qui sont les opposants n'attendent que ça. Est-ce qu'il a raison de repousser en permanence ? Leur dit quasi.
Écoutez, je pense qu'il y a deux lectures. La première, c'est que compte tenu du contexte pandémique en France, qui, bon, avec le variant Omicron qui effectivement est en train de baisser, moi je pense que la première justification, c'était de se dire, bon, il faut que d'abord la crise sanitaire soit derrière. Le problème, c'est qu'une fois que le variant Omicron a baissé et qu'il y a les allègements effectivement des restrictions, du pass vaccinal, etc., voilà que la crise ukrainienne prend une ampleur plus importante. Donc de ce point de vue, ce discours justificateur, il s'entend en réalité. Mais à partir du moment où de toute façon il est dans son bon droit d'attendre.
Oui, mais on a eu la crise du Covid repoussée, crise ukrainienne repoussée. Demain ça se trouve il y aura une crise repoussée.
Mais oui, mais
il y aura toujours quelque chose.
Oui, d'accord, mais du coup, moi je pense en fait que il va être obligé de déclarer de toute façon sa candidature avant la fin du mois. Déjà pourquoi ? Parce qu'ils doivent déposer les candidatures au 4 mars. Et il y avait effectivement l'agenda du salon de l'agriculture le 26-27. On disait que les équipes d'Emmanuel Macron disaient qu'ils pourraient éventuellement se présenter à ce moment-là. Sauf qu'avec la crise ukrainienne, je pense que ça va être après. Mais de toute façon, ça va être fin de mois ou début mars. Donc il va être obligé de le faire. Là où et le truc, c'est que de toute façon, il se retrouve dans une espèce de tradition présidentielle.
Avant de vous redonner
la parole, en activité, se présente relativement tard. Ça.
Il est 19h30, messieurs, et tout de suite. C'est le Quoi de Neuf, comme chaque lundi, avec Maître Honegger. C'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonjour Maître Philippe-Henri Honegger, chez Ruben et Associés. Comment ça va mon cher Maître ?
Bonsoir, eh ben, ça va très bien, très très bien.
On vous écoute pour la signature. Vous allez tenter de nous répondre à la question suivante. En France, à perpétuité réelle, est-elle femme ?
Non.
Est-elle réelle ?
Oui, j'ai fait une erreur de. Non, c'est de ma faute.
Et en plus, je me suis fait avoir parce que vous l'avez corrigé. J'ai dit réel et j'ai dit femme. C'est vrai, vous voyez comme quoi vous l'avez.
C'est une erreur d'autocorrect sur mon téléphone.
Surtout, et puis surtout, vous l'avez inscrit dans mon cerveau. Et ça, c'est pas bon. Voilà. On vous écoute.
Bon, effectivement, vous savez, j'essaye de poursuivre semaine après semaine mon catalogue des propositions qui sont faites par nos candidats à la présidentielle. Et une des propositions qui a été faite la semaine dernière par le candidat Zemmour sur Twitter, en rapport avec l'affaire Nordal-Hollandais qui passait, pour lequel a été requis la perpétuité. Exact. Et donc, suite à ces réquisitions de perpétuité, alors que la décision d'ailleurs n'avait pas encore été rendue par la cour d'assises, le candidat Zemmour se fend d'un tweet dans lequel il dit « Nous savons tous très bien que Nordal-Hollandais, quelle que soit la décision, ressortira un jour. » Et il indique « Quand je, Éric Zemmour, serai président, la perpétuité réelle sera réelle. » Et les Français seront donc définitivement protégés. Sa proposition est donc la suivante. En gros, quand en France, on prononcera une peine de perpétuité, ça veut dire que la personne ne pourra jamais, sous aucune circonstance, quelles que soient les raisons, sortir de prison. En gros, vous mourrez en prison. Parce que, selon lui, c'est une manière protéger les Français. Deux choses donc. Est-ce que ça existe vraiment en France, le fait que la perpétuité réelle ne soit pas réelle? Et surtout, pourquoi, si c'est le cas, on en a décidé ainsi? Alors, c'est vrai qu'en France, il existe la perpétuité qu'on appelle réelle, et que même quand on prononce une perpétuité dite réelle, il y a une possibilité, un espoir, une sorte de lueur à l'horizon, qu'on pourra sortir de prison avant de mourir. La perpétuité, en fait, ça veut dire que vous êtes condamné à prison à vie. Et ensuite, on rajoute à ça une période de sûreté, c'est-à-dire une période pendant laquelle on dit « vous n'aurez pas le droit de sortir quoi qu'il arrive avant cette date-là ». Cette période de sûreté, elle peut être à 15 ans, elle peut être à 22 ans, elle peut être à 30 ans pour les crimes les plus graves. Et quand elle est à 30 ans, on dit que c'est une perpétuité réelle, alors que pour les autres, on dit que c'est une perpétuité avec une période de sûreté de 15 ans, 20 ans ou 22 ans. Mais si cette période de sûreté, même pour la perpétuité réelle, elle est à 30 ans, ça veut donc dire qu'à partir de la 30e année, il y a une possibilité de sortir de prison. Et c'est vrai. Parfois, on me pose la question, mais donc ça veut dire que les gens, en fait, ils ne sont jamais à perpétuité en prison. Et la réponse que j'apporte inévitablement, c'est, vous savez, chaque année, il y a des gens qui meurent en prison. Parce que si vous êtes condamné à 30 ans de prison ou à la perpétuité et que vous mourrez au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans en prison, la perpétuité, vous l'avez vécue. C'est une réalité. Il y a aussi une autre règle qui dit que si jamais pour des raisons de santé, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes extrêmement malade, vous avez un cancer en phase terminale, vous avez besoin de soins extrêmement importants, autrement vous allez mourir dans des conditions absolument abominables en prison, dans ces cas-là, pour des raisons de santé, même si vous avez été condamné à la perpétuité, même si c'est une perpétuité qui est supposée réelle, heureusement que vous avez le droit de sortir. Et vous savez, on évalue la civilisation d'une société à la manière dont on traite les gens qui vont le plus mal. Et laisser mourir dans des conditions abominables quelqu'un en prison, heureusement que la perpétuité réelle dans ces cas-là n'est pas réelle. Mais c'est vrai qu'il y a toujours, quoi qu'il arrive, contrairement par exemple aux États-Unis, où la perpétuité réelle est absolument réelle, c'est-à-dire qu'on dit aux gens vous ne sortirez sous aucune condition, en France on laisse cet espoir. Monsieur Zemmour nous dit, c'est justement parce qu'on laisse aucun espoir qu'on va protéger les Français, et moi je vous réponds, si en France on a laissé cette possibilité-là, qui est de dire vous serez vu par des experts, on s'assurera que vous ne représentez plus aucun danger pour la société, qu'il n'y a pas de problèmes médicaux qui s'en empêchent, que vous avez des gages de réinsertion et de réadaptation qui sont très avancés, et si vous réunissez toutes ces conditions-là, alors peut-être au bout de 30 ans, vous pourrez sortir. Si on accepte cette idée-là, c'est justement parce qu'on veut protéger les Français. D'abord parce qu'on veut protéger les Français en prison. Parce que si vous retirez tout espoir à quelqu'un, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, il n'a plus rien à perdre. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? N'importe quoi, parce qu'il dit de toute façon que je tue une personne, deux personnes, 10 personnes ou 100 personnes, je resterai jusqu'à la fin de ma vie. Donc autant le faire. Autant trafiquer, autant foutre le bordel, autant se moquer absolument de toutes les lois de la détention, puisque de toute façon, ça n'arrangera pas ma situation. Donc on laisse ce petit espoir-là. Et puis l'autre apport qu'ont eu les Lumières, qu'ont eu la Révolution, parce que pour la première fois on a aboli la prison à perpétuité, c'était en 1791, c'était un apport de la Révolution française, c'est de se dire, vous savez, rien n'est jamais définitif. Vous pouvez avoir fait des choses absolument abominables. Vous pouvez être même quelqu'un d'absolument atroce, mais peut-être un jour, vous deviendrez meilleur. Parce que la prison n'est pas qu'une punition, c'est aussi un moyen de s'améliorer, de s'amender, de progresser, de s'éduquer, de s'élever. Et que peut-être celui qui était un monstre ou qui a commis des actes monstrueux un jour sera dans le futur un membre qui peut suivre la société. Ça, c'est l'héritage, vous savez, de Victor Hugo. Victor Hugo dans Les Misérables avec Jean Valjean, à qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, on qui a volé des chandeliers, et on lui dit les chandeliers, vous pouvez les garder, vous deviendrez quelqu'un de meilleur, et qui devient quelqu'un de meilleur. Et bien notre système français, il est fondé sur ça, on peut devenir meilleur, on a tous l'espoir de devenir meilleur. Et malheureusement, quand on vient vous dire que la perpétuité réelle, elle doit être absolument réelle, ça veut dire qu'on n'a plus aucun espoir, que plus rien ne peut devenir meilleur, qu'en réalité on ne croit pas en l'homme, et très franchement, quand on ne croit pas en l'homme, quand on ne croit pas à la possibilité de s'améliorer, quand on ne croit pas à la possibilité qu'un monde pourra devenir meilleur, je vois pas pourquoi on se présente à une élection présidentielle.
Excellent billet d'humeur, bravo mon cher Philippe-Henri Honegger, hein. Excellent mon cher maître, hein. Non, j'ai beaucoup écouté, j'étais comme un élève attentif à écouter.
J'essaye de, vous savez, faire un petit équilibre entre les informations et voilà.
Vous avez bien raison, et c'est tous les lundis, chaque lundi d'ailleurs, le rendez-vous à ne pas manquer, avec votre signature juridique. Merci mon cher maître Philippe-Henri Honegger chez Rubénas.
Avec plaisir.
À lundi prochain, avec autant de plaisir.
À lundi, ouais.
À lundi, exactement, 19h37, nous allons marquer vite. Allez, la pause, pub, et on se retrouve avec la dernière ligne droite avec nos trois débatteurs influenceurs. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h40, les informés, c'est avec Rudy Kazi, avec Amine Saha, avec Ahmed Lawedge. Cette question que beaucoup se posent, a-t-il raison Emmanuel Macron finalement de repousser sa candidature et jusqu'à quand, Amine Saha?
Bah, écoutez, Adil Farkan, il est dans son rôle de chef d'État. Et moi, je n'irai pas lui reprocher d'être pleinement mobilisé sur la question de la crise ukrainienne. Évidemment, je vois mal
comment, du Conseil européen.
Voilà, je vois mal un candidat tenir un meeting, puis sauter dans son avion pour aller en Ukraine ou en Russie pour un sommet de chef d'État. Ça n'aurait absolument pas de sens.
Ah, ça, c'est vrai.
Voilà. Ensuite, il faut se le dire.
Sauf si on est schizophrène.
Le temps joue quand même en sa faveur. On le voit bien depuis des mois. Son score dans les sondages ne bouge pas. Il a une assise relativement solide. Bon, on verra. Je pense que plus il retardera, plus peut-être que ça aura des incidences. Mais bien qu'il ne soit pas candidat, la campagne, elle bat son plein. Il faut se le dire. Il a engrangé les parrainages nécessaires pour être candidat. Les comités locaux sont en train de se constituer un petit peu partout.
Le mouvement pluriel est né.
Voilà, on voit.
Karim Amlal.
Exactement. Il y a les autres composantes de la majorité qui sont en train, on l'a vu avec Horizon et d'autres organes de la majorité se sont constitués. Donc, je crois qu'ils sont en ordre de bataille hein, pour faire campagne, bien qu'ils ne soient pas complètement déclarés. Et je pense que ça va venir dans les jours prochains et on pourra enfin débattre clairement. Ensuite, il y a aussi une chose, c'est que les bonnes nouvelles vont pas tarder à arriver. Je pense qu'il a voulu que ça coïncide. Pas la levée des restrictions sur le Covid-19, par exemple, sur les masques en extérieur, peut-être même en intérieur, les jauges, etc. Enfin, toutes ces. Puis il y a aussi la question du pass vaccinal. On a entendu qu'il pourrait être suspendu. Voilà. Donc toutes ces annonces vont aussi lui profiter. C'est-à-dire qu'une fois candidat, il va pouvoir clairement faire ces annonces-là. Et je crois que ça peut lui être profitable, évidemment, et il le sait. Et enfin, et j'en terminerai par là, moi, ce que je suis quand même un tout petit peu embêté avec les médias qui sont très... tout à l'heure, Ahmed Lawedge l'a dit, 147 heures pour Éric Zemmour dans les médias. Enfin, la candidate Christiane Taubira et notamment les jeunes avec Taubira qui ont tenté d'avoir voix au chapitre dans les médias ont été purement et simplement, je fais référence à un débat qui a eu lieu sur LCI, où tous les représentants des jeunes des candidats étaient représentés et pas les jeunes avec Taubira. Et j'ai trouvé que c'était un tout petit peu malhonnête de la part de celles et ceux qui tiennent les lignes éditoriales.
Ahmed Lawedge.
Oui, enfin, je pense qu'il a raison d'attendre. Je pense que, comme le disait Amine Saha, donc il a des dossiers sur le feu et il n'a pas besoin de faire campagne. Les médias font campagne pour lui. On parle de lui tous les jours.
Les médias font campagne pour lui.
Tous les jours, on parle d'Emmanuel Macron. Oui. Tous les jours, on parle d'Emmanuel Macron. Faut le savoir.
D'ailleurs, on
n'a pas besoin.
Pas le temps d'antenne des ministres.
Il n'a pas besoin de ça, lui. Et comme le disait notre collègue tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une date limite qui est le 4 mars, qui est le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. À partir de là, ça va se déclencher. Il sera candidat. Et puis, il ira dans le ring s'il le souhaite, parce qu'il l'a dit. Moi, je n'ai pas envie de débattre avec qui que ce soit. J'ai un programme et vous le verrez. Et donc, à un moment donné, les gens pourront, et on le voit dans les sondages, ça fait depuis le mois de septembre, 23, 24, 25, 23, 24, 25.
Il n'a pas comme disait Amine Sarr, il n'a pas bougé.
Il a
son socle.
Voilà, il a son socle solide, il faut lui.
Donc voilà, il a son socle en plus. Dans les quartiers populaires, parce que il y a beaucoup de gens.
J'ai eu le sondage, je l'ai eu. Vous savez quoi qui j'étais obligé de le maintenir jusqu'à la diffusion.
Qui vont voter pour Emmanuel
Macron. Mélenchon en tête, et tout de suite après, Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Vraiment. Ouais. Allez, tiens, on va en parler justement de cette élection présidentielle 2002. Va-t-elle être un enjeu pour les quartiers populaires, les habitants du quartier
2022,
j'ai dit quoi
2002.
J'ai dit
2002.
J'ai fait la même lapsus que Christiane Taubira. Attends, je ne le savais pas.
Vous devriez entrer dans son équipe.
Ouais, c'est ça, dans son équipe. Ouais, c'est
bien
ça.
Mieux, dit le Farkan.
Ah, je ne fais pas de politique, moi. Adieu, non. Je préfère rester dans mon rôle de journaliste, justement, d'éveiller les consciences. Ça me permet justement de garder ça, de cette casquette. 2022, vous avez raison. Les quartiers populaires, au cœur de cette campagne, est-ce qu'ils vont effectivement permettre d'avoir un véritable rapport de force dans ces quartiers populaires? Ou est-ce que Éric Zemmour, Jean-Marie Le Pen le savent? En vérité, je vais vous poser la question clairement. Comme les candidats le savent pertinemment que les quartiers populaires ne votent pas, c'est la raison pour laquelle on tape sur l'islam, on tape sur les Maghrébins, les franco-maghrébins ou les franco-évidemment subsahariens. On tape sur l'immigration, on tape sur les étrangers, on tape en permanence parce qu'on sait qu'ils ne bougent pas, évidemment. Mais sauf que de l'autre côté, dans les quartiers populaires, on a affaire à deux sociétés, la société française et les quartiers populaires. Eux, ils se sentent évidemment attaqués en permanence avec cette violence inouïe. Ils se sentent aussi considérés comme des boucs émissaires. Aujourd'hui, un en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est en train, évidemment, d'occuper l'espace dans les quartiers populaires et il fait entendre sa voix. Je voudrais vous entendre, les quartiers populaires, aujourd'hui, vont-ils être un véritable point, un enjeu pour ces élections présidentielles, redit quasi.
Le problème, c'est quand on regarde les...
À 50 jours de l'élection.
Quand on entend les déclarations des candidats, ça ne semble pas être un enjeu pour eux. Qui parle des quartiers populaires, effectivement, à part Mélenchon?
Est-ce qu'ils savent qu'ils ne votent pas?
Alors maintenant, c'est vrai qu'il peut y avoir le prisme de droite qui parlerait des quartiers populaires uniquement sur l'angle de la sécurité. Mais ce serait effectivement faire fausse route que de parler que de cet angle-là, parce que c'est vrai que dans les quartiers populaires, il y a des problèmes d'insécurité qui se posent, mais il y a aussi des problèmes sociaux. Donc ne parler que des problèmes d'insécurité, finalement, c'est noyer un peu le poisson et ne pas affronter les problèmes qui créent aussi quelque part de
l'insécurité. Est-ce que ça ne va pas les réveiller,
un
ça
peu comme Chirac l'avait fait.
Est-ce que ça ne va pas les réveiller, justement? Cette haine déferlante, est-ce que ça ne va pas les réveiller?
Les quartiers, si ça va les réveiller?
Est-ce que ça ne va pas les réveiller, justement, qu'on tape en permanence sur eux, ils se disent, je vais aller voter, moi, vous allez voir. Je vais aller me faire entendre.
En fait, tout dépend. À l'époque, effectivement, Emmanuel Macron avait peut-être réussi à baisser un petit peu l'abstention puisqu'il avait fait beaucoup de campagnes au sein des quartiers populaires. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui l'intéresse, c'est plus d'aller sur des sujets tels que la santé, le travail,
le pouvoir d'achat,
donc lié au travail, et puis quelque part aussi la sécurité, parce que Macron, faut pas oublier, il a quand même une jambe droite aussi. Donc moi, je pense que
sauf que c'est les vieux qui votent.
Voilà. Emmanuel Macron, je pense qu'il croit que il a
et pas les jeunes
complètement.
Il a en partie le vote des quartiers populaires en sa faveur, mais effectivement le sondage dont vous parliez avec Jean-Luc Mélenchon qui prend de plus en plus de place dans les quartiers va obliger, je pense, j'espère, va remettre un petit peu l'église au centre des villages, en tout cas au centre du quartier, passez-moi l'expression. Donc voilà, on va voir, mais
Ahmed Lawad.
Oui,
Ahmed Lawad.
Moi je pense que ce sursaut qu'on attend des quartiers populaires, je le crains que ça n'arrive pas.
Ah,
je le crains. Pourquoi je le crains? Parce qu'aujourd'hui, ils ont été beaucoup déçus, ces quartiers populaires. Et à chaque fois, ce sont les boucs émissaires, d'accord? Aujourd'hui, moi je ne reviens pas sur Mélenchon qui aujourd'hui fait en sorte de faire une bonne campagne pour les présidents, pour son élection, mais excusez-moi, il était quand même au gouvernement socialiste de l'époque. Il tenait pas ce même discours. Aujourd'hui, face à
c'est comme... un autre homme.
Mais sûrement que
c'est un autre homme. Il a changé.
Je peux l'entendre, mais sauf que aujourd'hui, la représentativité des personnes qui aujourd'hui peuvent aussi avoir la possibilité de gouverner dans ce pays ou d'être élu dans ce pays, c'est pas avec la France insoumise. La France insoumise, elle veut les voix des quartiers populaires, mais elle veut surtout pas les gens qui sont dans les quartiers populaires pour pouvoir gouverner. Et c'est ça qui me gêne un petit peu dans tout ça, moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent, attendez, il y a des discours qui se font ici ou là, mais c'est pas vraiment le et c'est pour ça que ça décolle pas. Parce que si ça décollait dans les quartiers populaires, excusez-moi, mais dans tous les quartiers populaires de France, avec le taux d'abstention, il serait pas à 10%, il serait à 17, 18, 19. À l'époque, rappelez-vous, avec le modem, avec Bayrou, il avait fait aussi une campagne dans les quartiers populaires et ça avait fonctionné. Et il est monté à 18%, faut pas l'oublier. Et des gens ont voté aussi pour François Bayrou en 2000, je crois que c'était en 2002 donc il avait fait un bon score. Donc aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est que les gens n'avaient pas voté. Et ma crainte aussi, c'est que dans les quartiers populaires, ils ont un problème aussi, ceux qui habitent, un problème d'insécurité. Ils veulent que si ça change, ils veulent aussi qu'à un moment donné, qu'il y ait un pouvoir d'achat. Ils veulent aussi, quand on parle du grand remplacement, je prends l'exemple de mon département, la Seine-Saint-Denis, le grand remplacement. Quand ils disent, ici ou là, dans les trains, vous avez vu qui va dans les trains, c'est que des gens du Maghreb, mais c'est des Français. Et si aujourd'hui on en arrive là, c'est aussi par rapport à la politique de logement qui avait été mis en place pour pouvoir faire en sorte de mettre ces gens-là dans le même quartier et dans le même secteur de la ville. Et alors qu'on signalait, on déclarait et on faisait des manifestations pour dire il faut mixer, il faut qu'il y ait des gens un peu partout, parce que c'est ça aussi la France. Non, on a laissé pourrir ce genre de situation.
Aujourd'hui, on leur montre. Je retiens une chose de ce que vous dites, c'est qu'effectivement, face à la déception, il y a un découragement.
Voilà. Ah mais ça fait des années que
il y a un divorce même, c'est même pas un découragement, un divorce même.
Ça
un divorce.
Ça dure,
oui, ça fait des années que ça dure. Ouais.
Si vous le permettez, Adil Farkan, je voudrais d'abord rendre hommage à Ibrahim Ali, assassiné il y a 27 ans, le 21 février 1995, dans les quartiers de Marseille. Les quartiers, la première chose qu'il faut dire, c'est que ce sont des territoires de la France. Les quartiers populaires sont la France. Ils sont partie intégrante de la France.
Sauf qu'eux, ils voient ça différemment. C'est-à-dire qu'il y a deux sociétés.
Et c'est bien le problème. Alors, eux, je pense qu'ils se sentent français. Moi, je tous les jours, au quotidien, dans les quartiers que j'arpente, il y a un sentiment profond d'appartenance à la France.
Appartenance à la France ou appartenance au quartier ?
Appartenance à la France, je le dis, je le répète.
Ah bon ? Moi j'ai l'impression d'appartenance au quartier, moi.
Si je peux terminer.
Moi aussi, j'aurais le sentiment, je suis fier d'être Donnay ou je suis fier d'être du Val-Fouré, mais pas.
Le problème, c'est que cette idée de la France, c'est pas forcément celle qu'on leur renvoie. Et on le voit bien dans les discours qui se sont énormément droitisés ces dernières semaines dans cette campagne électorale.
La France est à droite.
Les populations des quartiers populaires sont stigmatisées, sont des boucs émissaires, comme le disait Ahmed Lawedge. Mais moi, je crois, sincèrement, encore une fois, peut-être je suis plus optimiste que mes
collègues. Et vous avez raison de l'être.
Mais je crois qu'ils seront au rendez-vous de cette élection présidentielle.
Ah, ils seront au rendez-vous. Je pense,
oui. Ils font partie de ceux qui sont dans l'indécision. On le sait, il y a plein de Français qui sont indécis à ce stade. Et donc, du coup, je crois, je l'espère, en tout cas, je l'appelle de mes voeux et je profite de cette occasion, de cette tribune pour les appeler à se mobiliser, voter pour qui ils veulent, mais qui Ahmed, puissent exprimer leur voix
ce que dit Minsa, c'est vrai, il peut y avoir une lueur d'espoir, mais cette lueur d'espoir elle va jouer, c'est que si demain au deuxième tour il y a Emmanuel Macron et Éric Zemmour, oui, il y aura une possibilité qui est vraiment une petite mobilisation qui permette de pas faire passer de faire barrage à Zemmour. Voilà, il est là le. Mais qu'est-ce qu'on va faire après ? La question, c'est pas avant, c'est qu'est-ce qu'on fait après ? Mmh. Et c'est ça qui me gêne un petit peu.
C'est 40 ans que ça dure.
Voilà, et ça fait 40 ans que ça dure.
C'est 40 ans que ça dure. Vas-y.
Ce que je trouve dommage, c'est qu'à chaque fois qu'on arrive aux abords d'une élection présidentielle, se pose toujours la même question des quartiers, et ça se répète à chaque élection présidentielle. Ça veut dire que à chaque fois qu'on arrive à une élection présidentielle, on se pose pas la question du coup d'après. Et qu'est-ce qu'on fait pendant le quinquennat ou pendant à l'époque les centennats ? Qu'est-ce qu'on prépare pour les quartiers ? Rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas de leader d'opinion réel dans les quartiers. Pour les quartiers, se pose la question réelle de l'autodétermination en tant que citoyen, l'autodétermination en tant que n'attendant pas tout venant de l'État, entre guillemets, et l'autodétermination comme étant des personnes qui veulent s'en sortir malgré que
c'est le cas aujourd'hui. La nouvelle génération, c'est l'autodétermination.
Il y a le plus de
c'est l'autodétermination aujourd'hui
par rapport à la moyenne nationale.
Le plus d'entrepreneurs aujourd'hui,
c'est dans les quartiers. C'est là où il y a le plus de
d'entrepreneurs.
Bien sûr, c'est dans les quartiers populaires.
Mais je parle d'autodétermination citoyenne. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire un pas vers la France. Il ne faut pas attendre, en fait, que l'on revoie de moins en moins.
Il n'y a jamais eu autant de politiques élus, etc.
Mais vous disiez à juste titre tout à l'heure qu'on le reconnaît plus comme étant venant de son quartier que comme étant français. Donc ça pose la question de la citoyenneté.
La citoyenneté.
Moi, je pense qu'effectivement, chacun doit faire le pas vers la citoyenneté.
De reconnaissance et de représentation.
Je sais, mais en fait, si vous voulez, il faut réconcilier une France avec une autre.
À chaque fois qu'on parle de France, on parle de quartier.
Il y a une France qui ne donne pas totalement, qui ne renvoie pas l'image, en fait, d'une société qui doit être intégrée, qui doit être considérée comme française. Et de l'autre côté, il y a un parti qui reste un peu dans les cordes et qui ne veut pas non plus s'avancer. À un
moment donné, messieurs,
faut que chacun fasse le pas.
Effectivement, on retiendra le mot réconciliation.
On mettra fin à ce grand renoncement.
Ouais. C'est la question de la responsabilité.
Merci Ahmed Lawedge, merci Aminta, merci avec plaisir. Merci à Rudy Kazi, merci à vous messieurs. C'était un débat extrêmement fructueux, intéressant. Et le débat continue. Vous savez, avant le premier tour, je vous l'annonce d'ores et déjà, évidemment, nous aurons l'occasion d'organiser une émission spéciale, les informer autour de cette question de réconciliation, vous le disiez vous-même, des quartiers populaires, l'enjeu des quartiers populaires, la citoyenneté, l'entrepreneuriat, le social, enfin bref, toutes ces questions qu'on se pose. Mais n'oubliez pas une chose, chers amis auditeurs, partout en France, votez. C'est la seule manière, hein, pour vous, évidemment, de dire qu'on existe et de dire surtout qu'on est citoyen. À demain, avec autant de plaisir à la réalisation, c'était Yanis. Tout de suite, c'est Time Sport de 20h à 21h avec Bilal Nedman. À demain, avec autant de plaisir, je vous le dis encore une fois, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.